Donc, il y a quand même encore une volonté pour certains acteurs, dans des situations où ils sont vraiment en faiblesse, d'utiliser le débat, de s'en servir et d'en faire une tribune. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces acteurs, dans ces tribunes, ne restent pas sur les arguments environnementaux ou sur la question de la durabilité. Alors que très concrètement, le projet pour la nouvelle, il s'est fait attaquer notamment sur la question économique et budgétaire, parce que c'est un projet, ça restera entre nous, mais totalement délirant. En gros, 500 millions d'euros pour faire. Vous connaissez pour la nouvelle? C'est normal. C'est un port important, c'est un port régional, mais c'est aussi une sorte de station balnéaire pour retraités. Et puis voilà, il y a trois bateaux à la semaine, grand maximum, et on met 500 millions d'euros dessus. Il y a quand même des trucs, voilà, il y a des choses, à un moment donné, on se dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans l'Aude, enfin bon, et pour plein de raisons, mais. Et le dossier était tellement faible du maître d'ouvrage qu'évidemment, c'était assez facile pour les opposants, pour les Verts, d'attaquer sur ces questions budgétaires. Donc, premier élément que je voudrais qu'on garde en tête, c'est la question de l'élargissement à d'autres sujets. C'est-à-dire que la participation, on l'a déjà dit, bien entendu, depuis ce matin, mais très concrètement, évidemment, que si on est une association environnementale et qu'on rentre dans le processus de débat, il va falloir aller mobiliser des ressources aussi sur la question budgétaire, sur la question des risques, sur les questions voilà, d'évaluation, etc., des choses comme ça, qui ne sont pas forcément le cœur, on va dire, de la compétence des associations environnementales. Ça peut être une des premières difficultés. Deuxième élément, en comparaison, c'est que lorsque les associations environnementales se trouvent, on va dire, un peu plus au fait du projet et un peu plus à l'aise dans les canaux de circulation de l'information dans la presse, etc., on assiste effectivement à une défiance, une suspicion générale. Suspicion, sur, on est sur deux points que je voulais juste rementionner. Première suspicion, c'est sur l'insincérité de la procédure et du processus de participation. C'est relativement classique. Au sein de la commission Richard, on a entendu tous les opposants aux grands projets inutiles et imposés en France aujourd'hui. Très concrètement, ce qui était le plus flagrant, c'était l'insincérité de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire le fait qu'on leur mente, qu'on ne donne pas l'information. Enfin, c'était en plus tout à fait avéré avec des preuves assez fortes. La deuxième chose, c'est une suspicion d'inutilité. Alors, peut-être un point un peu plus précis là-dessus, c'est-à-dire que les associations environnementales sont souvent les premières à aller débusquer, finalement, la faiblesse du lien entre participation et décision. On en a parlé ce matin. Et qu'elles vont être extrêmement attentives à cette incapacité de la participation à peser sur la décision. Et surtout aujourd'hui, elles sont capables de le voir avant. C'est ça la différence. Avant, on ne le voyait qu'après. Aujourd'hui, elles le voient avant. Et on assiste à une chose assez étonnante, finalement. Un moment qui, à mon avis, a été un moment extrêmement, politiquement assez intéressant. Lorsque France Nature Environnement a été à la fois participante, et très fortement participante, au débat public sur Port la Nouvelle, et en même temps était en train de négocier avec la CNDP les conditions du débat public sur CIGEO, pour finir par boycotter le débat public CIGEO. D'un côté, FNE était très partie prenante du débat public pour la nouvelle, à tel point que le président de la Commission nationale du débat public a même, pour essayer que FNE vienne sur le débat CIGEO, a lâché une expertise complémentaire sur le débat pour la nouvelle. Là, on est dans la négociation pure, hein. D'ailleurs, je te donne ça, etc. Et ce que n'a pas compris la CNDP qui est arrivée juste après, parce qu'il y a eu un changement de CNDP à ce moment-là, elle n'a pas compris comment FNE, qui avait été l'allié du débat public jusque-là, avait vraiment trahi la CNDP en boycottant le débat public sur CIGEO. Ça a été vécu par la CNDP comme une traîtrise, vraiment, une trahison, un coup d'épée dans le dos. Il y a eu des débats forts entre le vice-président de la CNDP et le vice-président de FNE à ce moment-là, y compris public dans la presse, etc., qui ont été très durs. Mais quelque part, ça révélait effectivement qu'aujourd'hui, la lutte environnementale, on va dire ça comme ça, n'a peut-être plus besoin systématiquement de la participation, elle peut s'en passer. Alors, je le dis un peu vite. Regardons un tout petit peu ce qui se passe sur d'autres projets dans le champ urbain. Parce que on en parle à midi, moi je suis toujours frustré quand on parle participation à l'environnement, parce que l'environnement, ça se pose aussi dans les situations urbaines, et qu'en plus de ça, le code de l'environnement aujourd'hui a un principe d'application générale dans le code de l'urbanisme, ce qui fait que l'article 7 de la charte de l'environnement s'applique à tout projet urbain qui a un impact sur l'environnement. Tout simplement. Donc on a le même droit, d'une certaine manière. Dans le champ urbain aujourd'hui, on a effectivement l'équivalent de PMO, on va dire, avec l'Alliance citoyenne, par exemple, sur Grenoble, avec les efforts de. Alors, c'est un peu différent, mais de ce qu'on appelle le community organizing, qui concrètement, dans sa mise en œuvre, aujourd'hui, aboutit à un boycott de fait des instances de participation. L'Alliance citoyenne à Grenoble, son travail, c'est un travail social, d'accompagnement des habitants, de construction de rapports de force, qui, par définition, ne va pas aux instances de participation. Non pas parce que celle-ci, elle serait pas bien ou ça, non. C'est, profondément, c'est pas notre travail. Le travail, pour obtenir quelque chose aujourd'hui, il faut surtout pas aller dans les instances de participation. Il faut construire à côté. Je résume leur pensée, mais je crois qu'ils c'est à peu près comme ça qu'ils s'expriment. Et puis, un dernier exemple, si vous le voulez bien, sur la question de l'éolien, j'en parlais tout à l'heure. Parce que justement, que vont faire les associations environnementales lorsque elles sont sur un projet qui impacte fortement le paysage, voire des habitats, un certain nombre d'espèces, notamment de la vie faune, hein, tout particulièrement, et en même temps que le projet d'éolienne correspond à un objectif de transition énergétique, etc., de réduction des gaz à effet de serre. Alors, il y a énormément d'exemples. Je ne sais pas s'il y a justement des monographies véritablement sur le mouvement anti-éolien. Je crois qu'il y en a eu, avec Vent de Colère en particulier. Mais évidemment, intéressant, c'est que l'association Vent de Colère, le réseau Vent de Colère qui fédère tous les opposants à l'éolien, n'est, à mon avis, à ma connaissance, n'est pas adhérent de France Nature Environnement. Et c'est construit même assez fortement contre les autres associations environnementales. Sur un projet éolien dans la vallée de l'Oule, qui est un tout petit coin perdu des Hautes-Alpes, enfin entre Drôme et Hautes-Alpes, on a assisté à une chose assez intéressante, finalement. Alors je vous le raconte vraiment celui-là, mais brièvement. Une opposition très forte d'une partie de la population. Pas mal de résidents secondaires, plus quelques résidents, on va dire autochtones, ça ne veut pas dire grand-chose, qui sont pas très loin de l'installation des éoliennes. Les éoliennes devaient s'installer sur une crête, en limite de la commune, bien sûr, et surtout en face, bien entendu, de la commune d'à côté. Hein, c'est le principe de l'éolienne. Vous la mettez dans votre dos et dans la face de celui du voisin, mais quand même sur votre territoire. C'est un grand classique, mais ça, c'est un autre sujet. Sur cette petite vallée, le maire, lui, est pro-éolien, mais il est pro-éolien pourquoi ? Pas du tout pour la durabilité. Il est pro-éolien pour les ressources budgétaires que l'éolien va lui amener. 250 habitants sur la communauté de communes, c'est une des plus petites de France. 7 ou 8 éoliennes prévues, c'est juste jackpot. Et avec le budget prévu, il devait reverser plus d'argent au département, à la région, par éclatement, que ce qu'il se recevait lui-même. C'est-à-dire que c'était la manne, quoi, absolue. Bien. Donc, lui, il porte le projet sur, en plus, une maîtrise d'ouvrage public, sur un sol, un foncier public avec maîtrise d'ouvrage public. Très bien. Feu, territoire à feu et à sang, le mât de mesure d'éoliennes coupé, etc. Enfin, feu à sang, j'exagère un petit peu, hein, mais bref, les routes bloquées, etc., etc. Donc, nous, on vient essayer de mettre un peu de participation là-dedans, c'est pas très très simple. Et puis, en fait, le processus de participation fait que les anti-éoliens vont venir dans la participation, ils ne vont pas forcément boycotter. Mais ils vont venir pour essayer effectivement de faire peser leurs arguments, donc ils vont jouer le jeu. Mais en même temps, ils poursuivent leurs actions violentes, avec plein de guillemets toujours, de blocage. Et dans le même temps, la maîtrise d'ouvrage public, l'ensemble de la collectivité, elle, commence à réaliser qu'en fait, le projet d'éolien, ce n'est pas l'éolien qui compte, ce n'est pas la durabilité qui est importante. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on va retirer ? Parce que tant qu'on parle d'argent, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne voient pas ce que ça veut dire. Quand on va dire, avec cet argent, on fait une maison de retraite locale qui permet de garder tous les vieux au village, tout d'un coup, projet y passe. On fait des réunions de concertation, on travaille sur cette logique de futur, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent, etc. On s'engage sur une phase ultérieure de concertation pour développer le projet. Entre-temps, élection partielle, cantonale. Le maire se présente au cantonal, qui sont plus larges que seule la communauté de communes. Il perd l'élection. Donc moi, je l'appelle et tout. C'est bon. Ça va, pas trop dur, etc. Eh bien, je suis super content. Pourquoi ? T'as perdu, quand même. Oui, mais j'ai fait 70% sur mes trois communes. Et comme toute la campagne, de toute façon, on l'a faite sur l'éolien, concrètement, l'éolien, c'est bon, j'ai 70% pour moi. Je suis désolé, pour la concertation, on va s'arrêter là, c'est pas la peine de continuer. Terminé. Fermez le banc. Et le projet n'est pas réalisé aujourd'hui, si je peux vous rassurer. Il a pas obtenu des autorisations de la DREAL. Donc, tout ça pour dire que dans ce jeu-là, en fait, on peut discuter sur est-ce que c'est pour l'environnement, pas pour l'environnement, etc. Mais très profondément, il y a d'abord une incapacité des associations environnementales fédérales à venir et à prendre position en disant aux opposants locaux, attendez, il faut qu'on réfléchisse ensemble aux compensations, à un certain nombre de choses, etc. Ils ont été absolument absents. Personne. Et dans le même temps, des décisions qui sont prises pas du tout sur la question de la durabilité, qui sont prises très profondément sur la question du devenir commun, sur une question très profondément démocratique de comment une équipe municipale propose un horizon de moyen et de long terme rendu possible par l'argent de l'éolien. Alors, avec ces exemples, l'exemple ne démontre jamais rien, bien sûr. Ils essaient juste de montrer des choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi l'investissement au départ, quand même, dans un certain nombre de cas, pourquoi la défiance généralisée et le boycott dans un certain nombre de cas, et pourquoi l'absence par malaise, finalement, par incapacité, effectivement, à saisir, à prendre finalement position dans le conflit entre une lutte environnementale extrêmement locale, très facilement qualifiée de nimbyste par l'ensemble de l'establishment de l'aménagement, et des objectifs de durabilité plus nobles, on va le dire comme ça. Alors, l'hypothèse que je voulais vous proposer, donc en troisième partie, il me reste...
Il reste 10 minutes.
10 minutes. Merci. C'était qu'en réalité, pour reprendre finalement, enfin là, de certaine manière, je prends un peu la suite de ce qu'a dit Sandrine, là, en essayant justement de me décaler vraiment de la question de la procédure, et en me demandant qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces différentes attitudes, et notamment ce mélange de défiance et d'instrumentation de la participation par les ONG, l'association environnementale. Alors, Sandrine l'a beaucoup dit, concurrence ONG et public. Moi, j'avais mis dans mon petit papier que finalement, je voulais me poser la question de savoir s'il n'y avait pas un problème plus fondamental de démophobie. Alors, le mot n'est pas très joli. Mais s'il n'y avait pas au cœur de ces difficultés un rapport extrêmement conflictuel, une peur, phobie, finalement, de la parole du peuple et du peuple en général, de la part des associations environnementales. Alors, si on regarde, le terme, je le revendique pas parce que je pense qu'il est très maladroit, hein, mais bon. Le premier point, qu'est-ce que finalement revendiquent, notamment au niveau national, les ONG environnementales ? Revendiquent finalement la publicité des choses. Ce qui reste de l'alliance des années 80-90, c'est que par contre, elle ne cède pas sur un point, c'est il faut qu'il y ait toujours ouverture de la participation pour qu'on soit sûr d'avoir l'accès à l'information et l'élaboration de la décision. C'est pour ça que France Nature Environnement est l'association qui a posé toutes les QPC, donc les questions prioritaires de constitutionnalité, liées à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Parce que l'État, en fait, ne mettait pas en conformité ses règles de participation suite à l'adoption de l'article 7, donc du principe que tout citoyen a le droit de participer. Et donc, c'est FNE qui a systématiquement donc une attitude procédurale, mais très très impliquée, en disant, nous, on veut que ce principe constitutionnel soit appliqué en droit, et donc, on l'exige, et ça, en plus, ça a relativement fonctionné. Finalement, qu'est-ce que cherchent mes opposants ELV à Port-la-Nouvelle ? Le sentiment que j'ai, finalement, c'est qu'ils cherchent peut-être surtout la publicité de l'argument, et pas du tout l'avis du public, très clairement. Donc, publicité, oui, en gros, public, non, quoi, pour le dire vite. C'est le constat que je fais de façon un peu radicale. Donc, ce qui convient très bien à ces associations environnementales, c'est qu'il y ait les moyens de la publicité, il y ait le public dans la salle qui soit témoin de l'argumentation, et de fait, alors là on est tout à fait dans le débat public, c'est complètement au cœur d'ailleurs du débat public, hein, c'est-à-dire rendre public dès le départ, à l'amont des projets, les objectifs, les caractéristiques, etc., et débat de l'opportunité. Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose que les ONG environnementales portent encore, cette logique de publicité. Deuxième élément, depuis le Grenelle, alors on en a parlé un peu ce matin, moi je suis un peu atterré, j'essaie de ne pas faire trop part de mes jugements plus personnels, mais le Grenelle, j'ai contribué aussi, comme d'autres, à écrire un petit texte pour le groupe de travail gouvernance ou démocratie environnementale, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, comme beaucoup, j'ai été extrêmement déçu de l'accouchement du Grenelle sur la démocratie environnementale qui nous proposait essentiellement de transformer les CES en CESER, enfin les CSR en CESER et le CES en CESE. Et en gros, de donner une place aux ONG environnementales à la table de discussion des corps intermédiaires. Donc ça, depuis le début, je suis relativement étonné. Concrètement, Du coup, à la commission Richard, qui est en train de se terminer aujourd'hui, je m'attendais à ce que, c'est vraiment l'objet du débat, à ce qu'on ait des propositions, et je voulais un peu voir ce que ça donnait. Concrètement, qui fait les propositions en matière de participation? Ben justement, pas du tout France Nature Environnement. France Nature Environnement a répété pendant toute la commission, nous ce qu'on veut, c'est de l'enquête publique à la fin, avec de la transparence, et surtout du dialogue de parties prenantes au début. C'est-à-dire, le public, on n'en veut pas. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, vous nous mettiez à la table des discussions systématiquement dès le départ. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette revendication-là. Et cherchons un petit peu plus loin, qu'est-ce qui accompagne cet argumentaire? C'est aussi une lassitude de France Nature Environnement qui dit, mais en même temps, il y en a trop des commissions de parties prenantes. On n'en peut plus. On n'a pas assez de bénévoles et de militants pour aller à toutes les commissions. Donc, faites-nous un statut du militant associatif environnemental qui permet de rémunérer la présence à ces commissions. Donc il y a véritablement un jeu qui est toujours, et moi ça m'a surpris, hein, qui est véritablement toujours dans une logique de reconnaissance. Prendre part, à, en gros, à la table qu'on croit être la table de la décision. Évidemment, le CESE et le CESER sont pas tout à fait des tables de décision, mais c'est pas grave, ça légitime au-delà. Quelles sont les ONG qui font des propositions, justement, sur la participation un peu plus audacieuse? Ce sont les ONG qui, justement, n'ont pas de base d'associations locales, qui ne sont pas des fédérations d'associations locales. Et encore pas toutes, seulement quelques-unes. C'est notamment FNH, Fondation Nicolas Hulot, dont on voit aussi l'accointance avec la question du grand public, de la médiatisation, etc. Mais je ne veux, pas juger plus que ça. Deuxième élément, c'est un peu... Voilà, c'est une des pistes que je livre. Hein. Deuxième élément... qui pourrait expliquer finalement cette sorte de détournement, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la question de la participation du public, au niveau fédéral, en tout cas au niveau national. C'est, d'une certaine manière, c'est qu'il y a encore une conflictualité locale avec laquelle on est extrêmement mal à l'aise. Il y a encore quelques années, France Nature Environnement en particulier disait « Non mais, moi mes associations locales, ce ne sont pas des NIMBY, ce sont pas des opposants, ce sont vraiment des vrais écologistes. » Quand on connaît la conflictualité environnementale, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de conflits environnementaux, même d'associations qui deviennent effectivement militantes de la cause écologiste, qui au départ sont des associations militantes d'une question de cadre de vie. Et ça ne les disqualifie pas pour autant. Mais du point de vue, finalement, des critères qui permettraient d'être reconnus, alors on ne peut pas afficher qu'on est avec des nimbistes, en fait, que notre identité, elle vient de là. Et puis on a conflictualité plus forte, plus violente, qui est liée à des générations aussi nouvelles dans le militantisme écologiste. Alors, il ne faut pas généraliser, Sylvain, c'est en train de rendre trop vite. Mais c'est intéressant de constater qu'en fait, tous les efforts d'éducation à l'environnement et au développement durable, qui ont été pour le coup portés par ces associations et par la puissance publique, au lieu de, d'une certaine manière, donner à tous un même sentiment que l'environnement c'était important, etc., même si ça le fait aussi, elle permet aussi, elle justifie aussi des radicalisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une classe d'âge qui, en gros, se dit, mais on me raconte depuis 20 ans que l'environnement, c'est essentiel, c'est la première chose. Et d'une certaine manière, il y a peut-être là, malgré des efforts de diffusion de cette culture-là, de cette conscience, il y a peut-être aussi, on a aussi encouragé une forme de radicalisation, ou de radicalité, en tout cas, dans les luttes environnementales. Et là aussi, les associations environnementales sont complètement débordées par ces luttes. Aujourd'hui, très clairement, si Vince... militants de silence ne veulent pas entendre parler des associations écologistes, ou très peu, et surtout pas des FNE, ou des trop établis. Pour essayer d'aller vers la conclusion, dernier point un petit peu d'aveuglement, vous allez croire que c'est vraiment un réquisitoire à charge, hein, c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est aussi le fruit d'une inquiétude, d'une certaine manière. Toujours pareil, au sein de cette commission Richard, donc, sur l'évolution du droit à la participation, très clairement, dès le départ, presque tous les membres disaient on n'est pas que sur le champ de l'environnement, on est aussi sur les questions d'urbanisme parce qu'ils sont liés aux questions d'environnement, etc., etc. Le seul représentant qui a dit mais non, surtout pas, il faut surtout qu'on reste sur la question de l'environnemental uniquement, c'est le représentant de Fondation Nature Environnement. C'est-à-dire que il n'y a pas non plus en interne, après, ils ont confirmé ça, hein, là c'est une intervention, mais il n'y a pas non plus la conscience qu'effectivement, On peut se risquer en dehors de son champ, parce que quelque part, ce sera peut-être la victoire finale. Au contraire, on a vraiment un rapport à la crainte d'une dilution de la question environnementale. La participation agirait comme une sorte de solvant, le solvant de la question environnementale. Alors, je vais conclure sur la question du référendum, parce que je l'ai annoncé que j'allais le faire. Et je trouve aujourd'hui qu'on est sur un sujet assez intéressant. Premier élément, le référendum, il existe en France, notamment le référendum local ou la consultation locale. Elle peut être aussi de droit, c'est un droit d'initiative citoyenne. On peut demander au maire de décider de la consultation locale si on réunit 20% du corps électoral par pétition. Bref, premier élément d'analyse, même s'il y a eu, depuis Marion Paoletti, pas beaucoup de recherches sur la question du référendum, à ma connaissance du moins, mais premier élément, c'est que les associations environnementales ne se sont pas beaucoup saisies de ce référendum, de ce droit-là. Beaucoup de ces référendums, enfin, les quelques-uns du moins qui ont eu lieu, sont plutôt très liés à des luttes, justement, de cadre de vie, sans qu'il y ait forcément une association ou un collectif, ou bien sont liés à des oppositions politiques. C'est-à-dire que, très clairement, c'est une façon de mettre en difficulté l'opposant, le maire en place, pour le faire. Or, en novembre dernier, à la suite du décès de Rémi Fraisse, voilà ce que dit le président de la République. Donc il explique qu'en gros, ça ne va pas du tout, qu'il ne faut pas qu'il y ait quand même des morts pour une question environnementale, ça ne marche pas. Et juste un petit paragraphe, nous devons explorer aussi de nouveaux modes d'association des citoyens aux décisions qui les concernent, de nouvelles façons de communiquer, d'expliquer, d'entendre, de dialoguer. Les nouvelles technologies peuvent nous y aider. N'ayons pas peur non plus du vote pour débloquer une situation. Le recours à un référendum local vaut toujours mieux que le fait accompli ou l'enlisement que nous pouvons parfois constater. Donc, très concrètement aujourd'hui, la question est posée au milieu environnemental de savoir si oui ou non on ne franchisse pas. Est-ce qu'effectivement, on peut finalement décider sur les questions environnementales qui impliquent des logiques de durabilité par le vote? Et la réponse unanime, et pas que les logiques environnementales, c'est de dire surtout pas. Surtout n'y allons pas. Alors qu'on a un réflexe du politique qui dit, bon, c'est quand même mon outil, finalement, d'inscription dans le contexte politique local, certes, qui est un outil imparfait, mais qui néanmoins me permet de donner, pour un instant, véritablement la souveraineté au peuple sur une décision, sur quelque chose, là, repli absolu de tout le champ, de toutes les associations environnementales, y compris les plus opposées. Alors, par crainte de le perdre, peut-être, par crainte, par différentes craintes, moi, je n'arrive pas complètement à expliquer ça, même si j'espère que ce que j'ai dit jusque-là peut au moins un minimum éclairer. Deuxième élément, cette question du référendum, elle traverse aussi le milieu de la participation. Et ce sera ma conclusion. Ce que je trouve intéressant, finalement, aujourd'hui, c'est que, au fil de ce que je viens de vous raconter, il me semble, moi, que les acteurs environnementalistes ne sont plus des alliés et des soutiens de la question de la participation. Que profondément, ils n'ont pas évolué dans leur vision d'une participation utile à la durabilité. Donc, pour moi, il y a un divorce qui est relativement clair. Dans le même temps, il y a un monde, il y a un milieu de la participation, militant de la participation, qui a émergé pendant ce temps-là. Il émerge de façon assez différente. Il émerge autour de la question démocratique, il émerge autour de la question de l'exclusion, il émerge dans le cadre urbain autour de la coordination nationale, passant nous peut-être, si vous en avez un petit peu entendu parler, le nouveau syndicat des quartiers suite à la loi Lamy de 2014 sur la rénovation urbaine, enfin sur les politiques de la ville. Il émerge autour de professionnels de la participation, dont je fais partie moi, hein, mais qui peuvent aussi avoir une dimension militante, une dimension de conviction, etc. Il émerge dans les formations des fonctionnaires territoriaux. Il émerge par des réseaux, l'Institut de la concertation, Décider ensemble, bref, tout un certain nombre de structures qui sont discutables, critiquables, mais qui sembleraient peut-être faire émerger quelque chose. La crainte aujourd'hui, c'est que ces deux milieux, à mon avis, ne travaillent plus ensemble. C'est-à-dire que le milieu environnementaliste, d'une certaine manière, est en train de laisser échapper la participation sur des principes qui sont essentiellement des principes, finalement, démocratiques, qui, pour le coup, ne s'intéressent pas tant que ça à la durabilité. Ou qui s'y intéressent, comme tout un chacun s'y intéresse, simplement par conscience environnementale. Et à mon sens, on a ici quelque chose qui est véritablement problématique dans cette injonction paradoxale, ou en tout cas dans cette logique, c'est que à force d'avoir été tellement pragmatique dans l'alliance entre écologie ou durabilité et participation, hein, ce pragmatisme aujourd'hui débouche sur, à mon sens, une union qui n'est plus tout à fait solide. Je vous remercie.